cours de philosophie du vivant, réponse aux questions, par le Père Philippe, à Saint-Jeudard, le 16 novembre 1988.
Bon, puisque c'est réponse à des questions, c'est lui qui posera les questions.
Père, quelle est la méthode propre à la philosophie du vivant ? Est-ce une méthode d'introspection pour saisir le vivant de l'intérieur ? Qu'est-ce que ça signifie saisir de l'intérieur ? Est-ce que c'est avoir conscience d'eux ? Et puis, quelle est la part de subjectivité dans la connaissance du vivant ? Qu'est-ce qui va venir rectifier cette connaissance subjective ?
Ça, c'est la très grosse question. Si je regarde historiquement Aristote, qui est le premier à faire une philosophie du vivant, son père était médecin, et donc il s'intéressait au corps. Et sûrement que ça a joué dans sa jeunesse. Au corps vivant, au corps de l'homme. Donc si je regarde Aristote, d'une façon classique, on dira « philosophie du vivant fait partie de la philosophie de la nature ». Et Aristote semble dire « dans la philosophie de la nature, il y a la philosophie du vivant ». Ça m'a toujours beaucoup gêné. Cette classification. Toute classification, très bien. Je crois que pour Aristote, il y a quelque chose de très particulier dans la philosophie du vivant. Et toute la philosophie du vivant est commandée par le traité de l'âme. C'est le traité de l'âme, le Peripsuchès, qui donne à la philosophie du vivant sa signification profonde. C'est ça qui éclaire tout le reste. Or, il semble bien, si on est attentif au Peripsuchès d'Aristote, que c'est vrai. Ça fait partie de la philosophie de la nature parce que on regarde le composé. Pour Aristote, philosophie de la nature implique matière et forme. Nature, forme, nature, matière. Donc un composé, une vérité composée. C'est à cause de ça. Mais il me semble, et là, les historiens d'Aristote le soulignent, que le livre du Peripsuchès serait un livre très ultime dans la vie d'Aristote, peut-être le dernier. Et c'est pourquoi, pour Aristote, il me semble que la philosophie de la nature et la philosophie première nous permettent d'élaborer une philosophie du vivant. Ça me semble assez net. Autrement dit, la philosophie du vivant arrive en dernier lieu parce qu'elle implique être et devenir. Et que la vie fait toujours l'union, la vie biologique pour nous, l'union de l'être et du devenir. Or, la philosophie de la nature étudie le devenir, la philosophie première étudie l'être. Et donc, on ne peut pas vraiment entrer dans la philosophie du vivant si on ne sait pas ce qu'est la philosophie du devenir, la philosophie de la nature et la philosophie de l'être. C'est une hypothèse que je dis, parce que ça n'a pas été dit. Il me semble, personnellement, à cause de l'immanence du vivant. Le vivant est un être immanent. C'est ça l'intériorité, c'est l'immanence. Le vivant est un être qui assimile, qui fait que des réalités qui sont extérieures à lui deviennent intérieures. Et ceci fait comprendre que nous sommes au-delà de la philosophie de la nature, qui est simplement le devenir. Il y a quelque chose de tout à fait nouveau dans le vivant. Il se meut. Aristote insiste. Il y a donc une expérience nouvelle. S'il y a une expérience nouvelle, il y a donc possibilité d'avoir la connaissance de nouveaux principes. Et ce principe sera l'âme. L'âme n'est pas seulement la nature forme, c'est quelque chose d'autre. Et c'est ce quelque chose d'autre qui me permet de dire qu'avec la philosophie du vivant, on a vraiment une nouvelle partie de la philosophie. Et donc, le classement d'Aristote est légitime, mais n'est pas suffisant. Il est légitime parce que ce classement porte sur la manière dont la matière est intégrée. Alors à ce point de vue-là, la philosophie du vivant fait partie de la philosophie de la nature. Mais ça, c'est générique, c'est par rapport à la connaissance. Si je regarde par rapport au principe, alors à ce moment-là, je suis obligé de dire que la philosophie du vivant a quelque chose de tout à fait propre, c'est qu'il y a un nouveau principe, l'âme. Qui sera précisé à la fois du côté métaphysique, l'âme et substance, donc du point de vue de l'être, et du côté opération vitale, l'âme est un principe immanent de toutes les opérations vitales. Donc vous retrouverez dans ce qu'on appelle de façon classique les deux définitions de l'âme. Mais ça, ce n'est pas d'Aristote. Les deux manières de regarder l'âme. On la regarde comme substance et on la regarde comme principe immanent, source de toutes nos opérations. Donc, c'est très vrai qu'il y a un double regard. Vous voyez, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que la philosophie du vivant ne peut se comprendre que grâce à la métaphysique et grâce à la philosophie de la nature. Elle implique les deux. Et elle est une synthèse particulière des deux. Ceci me semble assez net. Et ça fait comprendre pourquoi la philosophie du vivant, dans le Péripsuchès, est une œuvre ultime d'Aristote. Autrement dit, ce qu'il y a de plus difficile pour nous de connaître, c'est le vivant. C'est plus difficile de connaître le vivant que de connaître le monde physique et de connaître la métaphysique, la philosophie première. C'est plus complexe. Et donc c'est quelque chose d'ultime pour nous. À la fois, on a un privilège unique de connaissance du vivant, mais étant donné la complexité, on doit reconnaître que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ceci au point de vue historique, au point de vue Aristote. Donc je suis obligé là, j'allais dire, de dépasser Aristote et de faire comprendre que la philosophie du vivant est bien liée à la philosophie de la nature et que la philosophie du vivant est une partie propre de la philosophie. Ce qu'Aristote ne dit pas d'une façon explicite. C'est implicite. La découverte de l'âme montre un principe nouveau. Donc, c'est dit. Je crois que ça, c'est très important pour nous. Donc, je ne peux pas garder le classement d'Aristote comme une chose définitive. J'aime mieux prendre cette division que pratiquement je prends tout le temps. Philosophie de la matière, philosophie du vivant, philosophie de l'être. Alors on pourrait dire philosophie de la matière, philosophie de l'être, philosophie du vivant. On pourrait dire ça. Ça n'a pas tellement d'importance. Parce que d'une certaine manière c'est antérieur, d'une autre manière c'est postérieur. Alors, on peut dire l'un ou l'autre. Pour nous, puisque on ne fait pas de la philosophie en faisant de l'archéologie, on ne fait pas de la philosophie en faisant de l'histoire. On fait de la philosophie en regardant la réalité existante et en essayant de la comprendre. Pour nous, étant donné la situation dans laquelle on se trouve, Il y a eu tout un développement très net avec Maine de Biran sur l'introspection. Une méthode nouvelle introspective, ignorée d'Aristote. Aristote ne parle pas d'introspection. Aristote ne statait le pouls que tous les ans. Tandis que l'introspection state le pouls matin, midi, soir, et même pendant la nuit. Introspection. Il y a quelque chose de très intéressant. On met en lumière quelque chose de très particulier. C'est que vous êtes témoin de vos actes de vie d'une manière unique. Autre chose est de regarder la vache qui regarde le TGV qui passe. Exemple qu'Aristote n'aurait pas pu donner. Et me regarder parlant. Me regarder travaillant. Me regarder communiquant avec les autres et les aimant. C'est ça l'introspection. Je me mets dans une situation très unique. Puisque je regarde de l'intérieur. De l'intérieur. Pour saisir ce qu'il y a de propre à la vie étant immanente, il faut pouvoir saisir la vie de l'intérieur. Autrement, je ne saisis pas ce qui caractérise la vie. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple déjà, peut-être à certains d'entre vous qui connaissaient la chose. Il y a quelques années, on avait un groupe extrêmement vivant d'hommes, de messieurs, polytechniciens, professeurs, à la Part-Dieu. C'était une trentaine. Ils avaient fait venir, j'étais du reste tout à fait consentant, le professeur Marois, professeur de médecine, professeur à la faculté de médecine, biologiste. Et on avait demandé à Marois d'exposer ce qu'est la vie dans la perspective des sciences biologiques. Et Marois avait intitulé « Politique de la vie ». Une conférence qui a duré 3 heures. Extrêmement intéressante. Palpitante. J'ai toujours envie que Marois vienne nous donner cette conférence. Parce qu'il est très vivant, il aime la biologie, et il est très, très intelligent, très pénétrant. Puis après, ces messieurs, dont il y avait 10 polytechniciens, je crois, 2 professeurs, tous des gens qui pensent, qui réfléchissent. Il dit maintenant, le philosophe, qu'est-ce qu'il dit sur la vie ? Situation pas très commode. Hein. Je ne croyais pas qu'il allait durer 3 heures, mais c'était bien. C'était merveilleux. C'était très riche. Alors, j'ai tout de suite commencé par un point de vue critique. Je ne pouvais pas préparer ça d'avance. Hein. Il fallait écouter et répondre. C'est ça qui est intéressant, du reste, dans un vrai dialogue. J'ai commencé par dire, le professeur Marois a dit tout cela grâce au microscope électronique. C'est évident. Pourquoi le philosophe du vivant ne se sert pas du même instrument ? Est-ce par fidélité à Aristote ? Est-ce par fidélité à saint Thomas ? Si c'était ça, ce serait lamentable. Me sert de l'électricité. Et je ne suis pas infidèle à Aristote. Ni à saint Thomas. Saint Thomas avait des petites bougies, ce qui lui permettait de se coucher plus vite. pas être une fidélité. Non, pourquoi? Pourquoi le philosophe, qui est quelqu'un d'intelligent, ne veut pas se servir du microscope électronique pour penser le vivant? Oui, il faut commencer par cette question pour comprendre l'abîme qui existe entre les sciences dites biologiques et la philosophie du vivant. Je ne sais pas comment t'y répondre, hein, mais c'est très important. Parce que c'est sûr, les résultats de Marois, c'était des résultats de la science biologique, poussés le plus qu'on peut. Alors, j'ai commencé tout de suite par dire, le philosophe s'adresse à l'homme. Ce qu'il veut comprendre, c'est l'homme vivant. Ce n'est pas la vie, c'est l'homme vivant. Ce n'est pas les réactions vitales, c'est l'homme vivant. Donc, il essaie de saisir ce qu'il y a de propre à l'homme vivant. Et non pas analyser ce que peut représenter telle ou telle forme de vie. Analyser le sang, par exemple. Très intéressant d'analyser le sang. Mais vous voyez bien, pour analyser le sang, qu'est-ce que vous faites? Vous faites que le sang n'est plus vivant. Vous tuez l'animal pour l'analyser. Vous tuez la vie pour analyser la vie. C'est légitime. Jusqu'à un certain point. Parce que vous pouvez aller très loin. Et on va très loin aujourd'hui. Puisqu'on se sert de meurtre pour aller plus loin au point de vue scientifique. C'est quand même très curieux, ça. Il faut voir les réactions qui ont eu lieu au point de vue scientifique, au point de vue philosophique, dans les premières dissections, premières analyses anatomiques qu'on a faites sur le corps de l'homme. C'est très intéressant de voir ça. Et c'est l'Église qui a poussé, quand on dit que l'Église est pour l'obscurantisme. La science biologique n'aurait pas existé si l'Église n'avait pas existé. C'est très curieux, ces choses-là. C'est intéressant, du reste, à voir ça. C'est des ecclésiastiques qui ont poussé ça le plus vite. Alors, le philosophe veut saisir la vie de l'intérieur. Ce n'est pas la connaissance des éléments chimiques, de chimie organique ou de chimie tout court, qui l'intéresse. Parce que par là, on étudie le vivant en fonction du chimique, en fonction du physique. Et on n'étudie pas le vivant en lui-même. On étudie le corps organique. Le philosophe, lui, veut saisir l'intériorité du vivant. Or, l'intériorité du vivant, ce n'est pas le corps. Même si vous taillez dedans et que vous trouvez l'intérieur. L'intérieur du corps est encore extérieur. C'est mesurable. Tout ce qui est mesurable est quantitatif. Tout ce qui est quantitatif est extérieur. Implique une juxtaposition. Le philosophe, lui, veut saisir l'intérieur parce que, de fait, ma vie humaine implique cette intériorité. Je suis quelqu'un qui sait très bien autre chose et de me regarder de l'extérieur, autre chose et de me regarder de l'intérieur. Première petite distinction, très importante. Regardez de l'extérieur, quand je me regarde dans la glace, je me regarde de l'extérieur. Je me dis pire, comme les autres me regardent drôlement. Quelle drôle de tête. Et ils me regardent comme ça. Moi, je corrige ce regard en me regardant de l'intérieur. Je dis, oh, pas tellement d'importance extérieure. Ce qui est important, c'est le regard intérieur. Le regard intérieur s'approfondit progressivement. Dans ce regard intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Je ferme les yeux. J'essaie de comprendre ce que j'ai vécu. C'est le vécu et c'est la vie actuelle. Il y a le vécu que je garde dans mes mémoires. Puis il y a l'expérience actuelle. La connaissance. J'ai beau me regarder dans la glace ne reflète pas mon cogito. C'est très curieux. Or, mon cogito, il existe. Je pense. Je réfléchis. Et ma connaissance, ma réflexion, je ne la saisis que de l'intérieur. Alors quand on posait la question, qu'est-ce que c'est que l'intériorité ? L'intériorité, c'est expérimenter quelque chose qui échappe à la mensuration. Tout ce qui échappe à la mensuration, c'est ma vie intérieure. Ma vie intérieure, elle est plus ou moins riche, elle est plus ou moins pauvre, mais ma vie intérieure, je connais, je pense, j'aime, j'ai la sensation. C'est ma sensation. Je vois. Mon jugement d'existence, je le saisis de l'intérieur. Je ne le saisis pas de l'extérieur. Je me dis, ah, je vois que tu es en train de penser ton jugement d'existence. Pas du tout. Vous pouvez fermer les yeux, penser, imaginer. Et pour nous, en tant que chrétiens, on sait très bien. L'oraison, c'est intérieur. C'est la vie intérieure. La méditation, c'est la vie intérieure. La contemplation, c'est la vie intérieure. Il y a quelquefois une répercussion biologique, mais en réalité, c'est ce qui est important, c'est vécu de l'intérieur. Oui, c'est très important, ça. Parce que ça montre que ce qui est vital ne peut être saisi que de l'intérieur. Je ne peux donc pas saisir le vital de la vache. Je ne peux pas saisir le vital de l'araignée. Même des araignées très méchantes. Je ne peux pas. Je ne peux pas saisir le vital du chien. Tandis que je saisis mon vital. Et celui de mon ami, partiellement, celui des autres, partiellement, en projetant. Mais c'est moi qui suis le sujet principal pour saisir ce qu'il y a de vital, le « c'est mauvais » où je suis source. Je dépends du milieu, mais je suis source. Source de ma pensée, source de mon amour. Je suis source. Il y a en moi quelque chose de premier, une source. Par où je pense. Bon, une fois que le philosophe a découvert ça, et vous voyez, l'introspection a mis ça en pleine lumière. Elle fait déborder. Elle va jusqu'à la connaissance psychologique et tout ça. On va jusqu'à l'analyse freudienne. L'analyse freudienne, hein, le médecin qui fait l'analyse, ben, il écoute. Si vous ne dites rien, il vous prendra le pouls, hein, vous avez de la fièvre. C'est tout. Il écoute. Et c'est en fonction de ce que vous dites, ben, qu'il va dire. Donc, on est en pleine introspection. Le vécu passé. La découverte de l'introspection est une chose très importante. Elle est présente chez Aristote. Elle est présente chez les néoplatoniciens. C'est la distinction qu'on fait entre l'expérience externe et l'expérience interne. Et il faut toujours bien comprendre ces deux types d'expériences. avec la différence, alors c'est là où, tout de suite, avec la différence, c'est que ici je ne parle plus de Mendebiran, j'essaie de comprendre au plan philosophique. J'ai constaté que nous avions une situation privilégiée pour saisir nos activités vitales. Et une situation que personne ne peut prendre. Quand je pense, j'essaie d'exprimer ce que je pense, mais je sais très bien que ce que je dis de ma pensée n'est pas ma pensée. C'est le corps de ma pensée, le langage. Et donc, je peux falsifier ce corps. Je peux tenir un discours magnifique, je n'y pense rien du tout. Et tout le monde est en admiration. C'est une espèce d'imbécile. Vous ne voyez pas que c'est pas vrai. Vous pouvez faire ça. De là est née la rhétorique. La rhétorique nous montre bien la différence entre la parole qui séduit et puis le point de vue de la pensée. Je sais très bien que mes sentiments les plus profonds, c'est très difficile à les exprimer. Quand j'aime, je me mets à chanter. Mais je sais très bien que mon chant n'est pas mon amour. Mon chant peut séduire, mais ce n'est pas mon amour. Quand j'aime, je garde le silence, parce que je sais que c'est intraduisible. Vous voyez, j'arrive profondément à discerner ce qu'est cette vie intérieure, et puis la manière dont j'exprime. Je peux très bien distinguer les deux. À partir de là, va se poser le problème, si je suis dans une situation tout à fait privilégiée pour saisir mes opérations vitales, la philosophie du vivant ne pourra exister que si je me sers de cette situation privilégiée. Autrement, je saisirai la matière du vivant, les résidus, les déchets. Je ne saisirai pas le vivant. Vous piquez le doigt et une goutte de sang, vous l'analysez. Et vous gardez le sang un certain temps, parce qu'après, il ne sera plus analysable. Vous savez bien, dans certaines conditions, il faut le garder. Pour qu'on soit le plus proche possible du vivant. Mais cette goutte de sang qui est tombée, c'est plus moi. C'est mon sang, mais c'est plus moi. Je ne peux pas le rattraper, sauf si je me mets à le sucer, puis à le rattraper. Comme ça. Je ne peux plus le rattraper, il est perdu. Découper. Coupez la source. C'est pour ça que chaque fois que vous voyez verser du sang, vous pleurez. Parce que c'est coupé de la source. Il y a une séparation. Et on est attentif à ça. Hein. Aristote a été attentif à ça. Ça, c'est sûr. Le De Anima nous montre. Mais il n'a pas poussé jusqu'au bout ce privilège que nous devons nous à cause de la méthode d'introspection. La méthode d'introspection a projeté objectivement cette situation privilégiée de saisir les choses de l'intérieur. Mais la méthode d'introspection a coupé son regard pour ne voir que ce qui est vécu, en coupant du reste. Or, ce n'est pas vrai. Toutes mes opérations vitales sont liées au corps. Toutes, même la pensée. Si toutes mes opérations vitales sont liées au corps, il y a donc, dans toute cette conscience que j'ai de mes opérations vitales, quelque chose qui demeure objectif. Mes sensations ont quelque chose d'objectif. Ma pensée a quelque chose d'objectif. Non pas parce que toute pensée implique une image, mais c'est parce que ma pensée, mon intelligence, est capable de rejoindre la réalité par mes sens externes. Vous voyez le jugement d'existence. Toutes mes sensations mon introspection peut être reliée au jugement d'existence. Et par là, garde une objectivité. Si je mets entre parenthèses le jugement d'existence, je suis en présence du vécu. Et le vécu est purement subjectif. Autre chose, le vécu, autre chose, l'expérience interne de ma vie intellectuelle, amoureuse, imaginative, et ainsi de suite, artistique. Je vois donc que mon expérience interne, qui est réelle, je saisis les choses de l'intérieur, va être reliée au jugement d'existence par mon corps, par le fait même. Cette introspection philosophique n'est plus une introspection psychologique. Elle va être reliée au jugement d'existence. Et par là, reprend son objectivité. C'est quelque chose de réel que je vis. Et je peux le regarder subjectivement, je peux le regarder objectivement. Je peux donc utiliser ce privilège d'intériorité d'une manière subjective ou d'une manière objective. Et à partir de là, on comprend ce que peut représenter la méthode d'une philosophie du vivant. Si c'était purement subjectif, ce ne serait plus philosophique. Ce serait descriptif. Je peux décrire mes états d'âme. C'est évident, vous pouvez décrire vos états d'âme. C'est quelquefois bon, quand vous vous ennuyez. Écrivez vos états d'âme, c'est mieux que de ne rien faire. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai vu qu'il y avait du brouillard. J'ai dit, oh, ce brouillard. Oh, comme je suis en connaturalité avec lui. Et immédiatement, mon âme a été prise par ce brouillard. Hier au soir, en me couchant, j'avais un très gros problème. Il revient à travers le brouillard. Alors qu'il était vu de façon très, très nette avant. Ainsi de suite, vous voyez, les états d'âme, je les décris. C'est pas philosophique, les états d'âme. Vous recevez une lettre de quelqu'un qui vous décrive ses états d'âme, c'est pas de la philosophie, ça peut être de l'art. Il y a des gens qui font ça admirablement, c'est une matière. Ah, ah, vous décrivez vos états d'âme, le tragique. Je suis en situation limite, je ne sais vraiment pas si je pourrais durer encore demain. Je me sens suspendu. Ma vie, je ne sais trop comment, je sens toujours. J'ai devant moi des têtes impossibles et qui semblent complètement m'ignorer. Je suis seul au milieu d'une quantité d'individus qui me regardent, mais qui me regardent. Vous décrivez vos états d'âme. En décrivant vos états d'âme, vous ne faites pas de philosophie. C'est un laboratoire merveilleux, hein. La vie commune pour décrire ses états d'âme. Et pour avoir toujours devant soi un mur. Parce que la situation limite, c'est quand on est en face d'un mur qui ne répond pas. Et le mur, vous voyez, c'est ça existe. C'est pas le jugement d'existence. C'est quelque chose devant lequel je me casse la tête. Ça ne répond pas. C'est un mur. Et quand le mur a 60 faces, communauté de 60, 60 faces, chacun est un mur. On peut faire ça, hein, le faites pas. Et on peut. Je suis dans une prison, 60 portes, 60 murs. C'est affolant. Je comprends que ça fait la panique. Mais ça existe, ça. Il y a des gens qui sont paniqués par la multitude. D'où vient cette panique? C'est qu'on a considéré chaque individu comme un mur. qu'on était devant des têtes pas très aimables, pas très souriantes. Petit à petit, c'est devenu un mur. Et on s'est laissé encercler. D'où la panique. Je ne peux plus supporter la communauté. Insupportable, cette communauté. Insupportable. Là, je me mets en dehors. Il y a un fond d'église. Là, je me mets dans le fond. C'est très reposant. Parce que là, le mur n'est plus qu'un seul mur, c'est la communauté. Vous voyez, l'introspection conduit à l'angoisse. Ça, c'est sûr. Mendel Miron a apporté quelque chose de très intéressant, mais en même temps, il conduit à l'angoisse. L'introspection qui ne rejoint pas le réel. L'introspection qui s'enferme sur le vécu. Le chemin d'existence est supprimé. Il y a une certaine philosophie du vécu qui s'appelle la phénoménologie, le logos du phénomène. Et le phénomène, c'est ce qui apparaît à ma conscience. Et j'étudie ça pour lui-même, Husserl. Très intéressant, c'est le vécu. Mais mon vécu n'est pas le vôtre. D'abord parce que je suis plus âgé. Alors il y a plus de couches. Vous êtes plus proche du berceau que moi. Ça ne veut pas dire que j'ai peut-être un appétit beaucoup plus grand du berceau que vous. Ça, c'est autre chose. Le vécu. Tout à fait personnel et individuel. Et voyez, c'est pour ça que la phénoménologie est descriptive. Elle n'analyse plus. Pas de principe. C'est pour ça que c'est pas une philosophie. Au sens aristotélicien. C'est un art. Toile d'araignée. La toile d'araignée est objective. Tandis que la phénoménologie n'est pas, elle est subjective, purement. Vous décrivez. Alors, comme nous sommes de la même race, nos descriptions peuvent se rejoindre. Et par là, on peut dire, mais oui, tiens, vous décrivez ça admirablement. Vous décrivez l'angoisse admirablement. Si vous êtes angoissé, décrivez vos angoisses. Ça vous libère. Faites votre petit livre intime qu'on éditera après votre mort. Mes angoisses au noviciat. Le père maître, grosse angoisse. Tel frère, grosse angoisse. C'est un mur. J'ai essayé plusieurs fois de le défoncer. Impossible. Là, j'ai décrit mes angoisses. Décrire ces angoisses peut augmenter les angoisses ou nous libérer. Je ne sais pas si la phénoménologie nous libère. Elle peut. Si on est très artiste, l'artiste se libère de ses angoisses en faisant une œuvre. Il ne fait pas l'œuvre pour se libérer de ses angoisses, mais faisant une œuvre, il se libère de ses angoisses. C'est pour ça, quand on ne fait plus rien, comme au noviciat, il y a un chant extraordinaire à l'angoisse. Vous êtes attentif à ça. Si on a une très grande vie, on y échappe. Si on découvre la philosophie, on y échappe. C'est pour ça qu'on fait de la philosophie. Ça rejoint le réel. Mais si on n'est pas très très réaliste, si on a une imagination folle, il y a un sevrage, hein, on a vu ça. Le sevrage des journaux. Mais ce novice qui est parti au bout d'un mois en disant, en aspirant, je ne sais pas. Ça, je m'en vais. Je dis, pourquoi ? Il me manque l'information du monde. L'information. Voilà ce qui me manque. Je ne peux pas vivre sans le monde. Je dis, évidemment, c'est difficile alors la vie religieuse. Il y a un sevrage. ceux qui étaient habitués à aller au cinéma tous les mois. Pas de sortie tous les mois pour aller au cinéma du coin. Ceux qui étaient habitués à aller au cinéma tous les jours. Le sevrage est encore plus fort. Le sevrage au point de vue de la nourriture. Et ainsi de suite, il y a un sevrage terrible. Changement de vie. Complet. Alius genus vitae, dit saint Thomas. La vie religieuse, c'est un autre genre de vie. Donc c'est très radical et il y a une répercussion sur la vie biologique. Ça c'est sûr, si on ne fait pas grande attention. C'est pour ça qu'on doit peser les bébés novices. Tous les mois. Pour voir si l'équilibre continue. Il faut le faire, c'est une vieille chose ancienne. Parce que c'est par le poids, vous voyez, qu'on voit tout de suite si. Sevrage. Et ce sevrage, où il est assumé par l'amour divin, où il est assumé par un réalisme philosophique. Parce que le philosophe ne connaît pas de sevrage. Puisque le lieu de sa philosophie, c'est lui. Donc il est toujours là. Et si vous menez une vie plus intérieure, vous augmentez le champ d'action de la philosophie et de l'analyse philosophique. Les stoïciens exigeaient un quart d'heure de méditation pour tous les étudiants. Donc un quart d'heure de sevrage pour méditer. Bien évident que la vie religieuse augmente terriblement la vie intérieure. Si on ne veut pas s'évader. Et à ce moment-là, permet de façon merveilleuse l'intériorité de l'intelligence et de l'amour. Et donc augmente le champ de réflexion au plan philosophique. Ça c'est sûr. Comment voulez-vous quelqu'un qui est occupé toute la journée, qui, de son travail, prend le métro, retrouve... Comment voulez-vous qu'il puisse penser ? Faire de la métaphysique, c'est impossible. Il y a certaines conditions de vie nécessaires. Au début, on s'en aperçoit peut-être pas, mais au bout d'un certain temps, on s'en aperçoit que c'est... C'est pour ça que le Père de Haut disait que quelqu'un qui a un très grand amour de la vérité et de la recherche de la vérité, c'est le signe d'une vocation religieuse. On ne peut pas dire ça en public. On le dit ici. Je comprends très bien ce qu'il veut dire. La recherche de la vérité, c'est la finalité de l'intelligence. Si on a une très grande soif de vérité, on ne peut pas ne pas y répondre. Et pour pouvoir y répondre, aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est la vie religieuse. Tel genre de vie religieuse qui permet cette réflexion pour le Christ, pour Dieu, pour ses frères. C'est très beau ça. J'ai retenu ça, moi. J'ai trouvé ça très très beau. Il disait que c'est le signe d'une vocation contemplative, la recherche de la vérité. Alors voyez comment cette introspection est double. Elle est où ce repliement sur ma conscience du vécu que je décris dans tous les petits coins, dans toutes les émotions, dans tous les sentiments que j'ai eus. Où cette introspection est simplement la prise de conscience de mes opérations vitales. Ce n'est plus une introspection au sens fort. C'est une réflexion sur ma vie intérieure, sur mes opérations intérieures et mes opérations d'homme, humaine. Et ces opérations impliquent, du côté de l'intelligence, le jugement d'existence. Du côté de l'amour, j'aime une personne. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est la personne aimée, c'est pas la manière dont je l'aime. Là, vous voyez tout de suite la différence entre l'introspection et l'intériorité philosophique. Ce qui intéresse le philosophe, c'est d'aimer.